Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». En 1990, lorsque le régime soviétique s'est effondré, une des premières manifestations de la population de Moscou a été de déboulonner une statue qui se trouvait devant la Loubianka, le siège à l'époque du KGB, la statue de Dzerzhinsky. Alors, qui était ce Félix Edmundowicz Dzerzhinsky? Il était issu de la noblesse polonaise. Il est né en 1872 dans ce qui est actuellement la Biélorussie. Et il a été révolutionnaire très tôt. Il a passé de nombreuses années en exil ou en prison. Et puis arrive la révolution. Et dès le mois de décembre 1917, je vous rappelle que la révolution russe a éclaté au début novembre 1917. Dès décembre, il dirige un nouvel organisme qui allait occuper une place centrale dans le système soviétique, la Tcheka, ancêtre de la GPU, puis du KGB, les services secrets soviétiques. Première chose, on n'autorise plus qu'un seul journal. On supprime les jugements parce que c'est du temps perdu. On supprime le rôle des avocats. Et arrive ce qu'on appelle la terreur rouge. Les tortures, les exécutions. Dzerzhinsky, qu'on a appelé Félix de fer, sans doute par comparaison avec Staline, l'homme d'acier, Dzerzhinsky est impitoyable. Il soutient Staline dès 1922, avant même la disparition de Lénine, enfin la disparition physique de Lénine. Et il meurt en 1926, officiellement, d'une attaque cardiaque, après avoir personnellement ordonné la mort de milliers de personnes. Alors cette mort en 1926, évidemment, a suscité beaucoup d'interrogations. On dit, mais alors là, je vous laisse le soin de vous faire une opinion vous-même, qu'il aurait découvert un dossier concernant Staline. Staline qui, lorsqu'il était en Géorgie, aurait été un agent double de l'Okhrana, la police secrète du tsar. Mais Dzerzhinsky, quand même, a imprimé sa marque dans un régime qui allait perdurer jusqu'en 1990. À présent, je voudrais vous parler d'une femme trop oubliée, qui s'appelait Alexandra Kollontai. Elle est née à Saint-Pétersbourg en 1872, elle est morte à Moscou en 1952. Elle était fille de général. Oh, elle se marie à 20 ans avec M. Kollontai, donc, un jeune officier, ils ont un enfant. Et en 1896, elle quitte tout. Elle part pour Zurich, elle devient marxiste acharnée. Elle se lie avec Lénine, avec Rosa Luxembourg, avec Paul Lafargue, et elle revient en Russie en 1905. Et lorsque la révolution bolchévique triomphe, elle devient commissaire du peuple à l'assistance publique en mars 1918. Avec Inès Armand, l'amoureuse de Lénine, elle s'occupe des problèmes des femmes. Elle devient, peu après, à partir de 1923, une des premières femmes ambassadrices et nommée ambassadeur en Pologne, en Norvège, pardon, en 1923. C'est sans doute, si on réfléchit bien, ce qui l'a sauvée. Parce qu'étant ambassadrice, elle n'était pas souvent à Moscou. Elle était ambassadrice en Suède en 1930. Et elle prônait l'union libre, l'avortement, le divorce. Elle considérait que l'amour, le sentiment amoureux, c'est un sentiment bourgeois. Pour elle, l'acte sexuel n'était pas plus que le fait de boire un verre d'eau. Et Dieu sait si dans sa vie, elle a bu beaucoup de verres d'eau dans ce sens-là. Elle est morte de sa belle mort, ce qui, pour une révolutionnaire aussi ancienne, relève du miracle. Elle est morte un an, avant Staline. Elle est enterrée au cimetière de Novodevitchi, à Moscou.
Thank you.
Le 3 août 1918, Lénine est victime d'un attentat. Une députée socialiste révolutionnaire, Fanny Kaplan, lui tire dessus. On a dit que c'est cette blessure, Lénine a été blessé quand même, cette blessure a commencé à marquer le début de la fin pour Lénine. Alors, Fanny Kaplan sera exécutée 3 jours plus tard, sans jugement bien sûr, après avoir été interrogée par la Tchéka, l'ancêtre du KGB, et autre chose. On se dit que cette Charlotte Corday russe a peut-être, par son geste, précipité la disparition de Lénine et, du même coup, accéléré l'accession au pouvoir de Staline. Un petit clin d'œil de l'histoire. En 1918, lorsque Lénine décide d'empêcher la réunion de l'Assemblée constituante, il y a des manifestants. Une des premières victimes des bolcheviks parmi ces manifestants s'appelait Gorbatchevskaya. Gorbatchevskaya, le début du régime soviétique, et Gorbatchev, des années plus tard, le début de la fin du régime soviétique. Je ne voudrais pas passer sous silence un autre personnage, un personnage qui s'appelait Lili Brick. Alors, Lili Brick, elle était née Kagan. Elle avait une sœur qui s'appelait Elsa Kagan, qu'on connaît davantage en France sous le nom de Elsa Triolet. Et alors, Lili Brick, s'est mariée avec un poète, Ossip Brick, et puis elle était amoureuse de Vladimir Mayakovsky. Et pendant des années, pendant 10 ans à peu près, jusqu'à la mort de Mayakovsky, elle a été l'exemple de la muse du poète. Ironie de l'histoire, Mayakovsky avait commencé par faire la cour à la sœur, Elsa Kagan, qui n'était pas encore Elsa Triolet. Et puis il avait décidé de choisir Lili Brick. La suite de la vie de Lili Brick n'est pas forcément très intéressante, sinon qu'on sait à présent que Ossip Brick, ainsi que son deuxième mari, Vitali Primakov, faisaient tous les deux partie du KGB. Alors, on en conclut ce qu'on veut.
Когда ночь город обнимает, и молча звезды зажигает, а песня сердце приласкает, и Минск уставший мирно спит. Не спится только ветерану войны минувшей партизану. Ночь растревожила в нем раны, и память сердца говорит. И вновь уходит в тьму ребята, и вновь молчит в ночи засада, но в тишину бьют автоматы, и закипает жаркий бой. Снова небо полыхает, и кто-то яростно стреляет. И на траву тебя бросает, и звезды кружатся с тобой. Кровью истекаешь, и пусть ты даже умираешь, но все равно ты побеждаешь, а побеждая ты живешь. Когда над городом светает, и ночь на запад отступает, и даже песня замолкает, и Минск уставший мирно спит, сердце
Maintenant, je voudrais vous entraîner quelques années plus tard à Paris. Parce qu'en 1918, lorsque beaucoup de Russes ont été obligés de quitter le pays, surtout dans le milieu des officiers, beaucoup se sont réfugiés en France. Et notamment un qui s'appelait Alexandre Pavlovitch Koutiepov, qui est né en 1882. En décembre 17, il s'est engagé dans l'armée des volontaires pour lutter contre le régime soviétique. Il était lieutenant général, gouverneur militaire de la mer Noire, et il a immigré en France en 1924. Et en France, il s'est occupé de l'Union générale des combattants russes, fondée par Wrangel quelques temps plus tôt. Et là, on arrive sur un des mystères jamais résolus du contre-espionnage. Le 26 janvier 1930, en sortant de chez lui, rue Rousselet, à l'angle de la rue Oudinot, il est arrêté par deux agents de la GPU. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Il semble qu'il soit mort en route. Alors qu'on le ramenait en Russie, on ne le saura sans doute jamais. Et il a été remplacé par un autre général, enlevé à Paris, lui, dans les mêmes conditions, presque, que Koutiepov, le général Miller. Par contre, le général Miller a été exécuté à Moscou en 1939, là, on a les documents qui prouvent qu'il a été exécuté. Alors, Miller était noble, d'origine balte. Il a été attaché militaire de plusieurs ambassades. En 1917, il a été arrêté par ses propres soldats. Il a vécu de 1930 à 1937 à Paris. Et puis il a été drogué par de faux agents de l'Abwehr, l'armée allemande. Et là, on a un autre mystère. On a un autre mystère parce que une femme a été condamnée. Une femme qui s'appelait Nadia Japlevitskaya, qui était danseuse de danse folklorique, et qui a probablement participé à cet enlèvement du général Miller. Et elle a été condamnée. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Elle a été emprisonnée en France. Elle est morte en 1940. Ce qui est bizarre, c'est que son dossier a disparu de la prison où elle était internée. Elle était mariée avec Skoblin, un général des armées blanches qui était devenu agent double et qui, lui, était tout simplement assassiné parce qu'il s'était réfugié en Espagne. Et le KGB l'a exécuté en Espagne. Alors maintenant, après une pause musicale, je me permettrai d'évoquer deux ou trois personnalités des armées blanches. D'abord, le général Wrangel, Piotr Nikolaevich Wrangel, qui est né en 1878 et qui est mort à Bruxelles en 1928. C'était une figure haute en couleur. On l'appelait le baron noir, tout simplement parce qu'il avait un chapeau en fourrure noire, il était très grand. Il s'est d'abord distingué au moment de la guerre russo-japonaise en 1904. En 1918, il s'est réfugié en Crimée. Et puis il a rejoint l'armée des Blancs dans le Kouban. Il a combattu en 1918-1919 à Tsaritsyn, à Rostov-sur-le-Don. Et puis, il s'est réfugié à Istanbul. Il est devenu chef de l'armée blanche en Crimée. C'est lui qui a organisé l'embarquement des Russes de la Crimée vers l'Europe ou l'Amérique. 146 000 personnes, dont 7 000 soldats. En France, il a habité notamment Boulogne-Billancourt, et puis il est allé à Bruxelles en 1925, où il est mort en 1928. Hasard de l'histoire, je ne sais pas. Il a été enterré à l'église orthodoxe de Belgrade. Pourquoi ? Je vous laisse le soin de choisir. Autre figure qui n'est pas forcément une personnalité marquante, mais qui a joué un rôle important dans l'histoire, c'est Kerensky. Kerensky Alexandre Fiodorovitch, qui est né en 1881, qui est mort en 1970. De formation, il était avocat. Les hasards de l'histoire font que son père, qui était professeur, a été le professeur de Vladimir Ulyanov, dit Vladimir Lénine. Alors, Kerensky, on peut dire qu'il a passé son temps à ne pas comprendre ce qui se passait. Il n'a pas senti venir les événements. Alors, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que lorsque les bolcheviks, en 1917, ont investi le palais d'hiver, il s'est enfui du palais déguisé en femme. Est-ce que c'est vrai ? Je vous laisse le soin d'en juger, mais une chose est sûre, lorsqu'il s'est réfugié à l'étranger, il a revêtu un uniforme de matelot. Kerensky fait partie de ces gens dont on dit qu'ils font l'histoire, mais ils ne savent pas quelle histoire ils font. Au passage, Kerensky, qui est mort à New York, n'a pas eu droit à un enterrement religieux. À présent, quelques mots rapides de militaires de l'armée blanche. Kornilov, 1870-1918. C'est un des rares qui soit mort au combat. Il a été nommé généralissime sous le gouvernement provisoire. Il a rejoint les Cosaques du Kouban. Et puis, en 1918, il meurt tué par un obus explosif. Il a été enterré, puis les bolcheviks, en arrivant, ont déterré le corps pour le faire brûler. Mais à l'endroit où il est mort, il y a une croix, il paraît-il, il y a toujours des gens qui vont se recueillir à cet endroit-là, au pied de cette croix. Lui, par contre, on n'avait qu'un doute sur le fait qu'il soit mort. On a des photos prises à ce moment-là. une autre évocation d'un autre général, général Kolchak, qui est né en 1874, qui est mort en 1920. Pendant la guerre de 14-18, il a dirigé la flotte russe, pris par les bolcheviks. Il a été fusillé sans autre forme de procès. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne faisait pas de procès, ça prenait trop de temps. Ça évitait de convoquer des avocats, et surtout, on était sûr du verdict dans la mesure où les jeux étaient faits d'avance. Et voilà quelques souvenirs au fil de la révolution soviétique. Il y a une chose que je voudrais rappeler, parce qu'elle me semble fondamentale. Lénine, en instaurant la terreur rouge. Dzerzhinsky, en mettant en place la Tchéka. Les lois qui sont parues immédiatement sur l'interdiction des partis politiques. Un seul parti existait, le parti bolchevique. Je n'ai même pas dit le parti communiste, je dis le parti bolchevique, parce que parmi les bolcheviques, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas entièrement d'accord avec Lénine. Un seul journal existait. Un journal édité, bien sûr, par les bolcheviques. Une seule pensée s'imposait, celle des bolcheviques. Et cela nous aide peut-être à comprendre comment un pays qui, jusqu'en 1990, a vécu sous ce régime-là, en est arrivé à un état étonnant, qui peut friser parfois la paranoïa. C'est-à-dire que tous ceux qui ne pensaient pas comme il fallait penser, eh bien, la plupart du temps, se taisaient. Leurs opinions, leurs idées, ils les gardaient pour eux. Sauf quelques cas très isolés qui finissaient soit en exil, soit en prison, soit en asile psychiatrique. Et en évoquant ces figures qui sont à l'origine de ce régime-là, peut-être trouverez-vous sujet à réfléchir et à essayer de comprendre peut-être de façon plus objective ce qui se passe en Russie actuellement. N'oubliez jamais que Poutine faisait partie du KGB. Il a gardé cette mentalité. Qu'est-ce qui va en sortir? Je n'en sais rien, je vous laisse le soin de le supposer et je vous remercie de m'avoir écouté.
Мчится тройка, скачет, бьется в пыли с-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к клюшке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к клюшке своей.
Едет, 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 едет
большое, ожил сразу мой отщик. Песни звонкою долою залился он тот же миг. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей, едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. Тройка стала, ямщик прыгнул с облачка. Краснодевка подбежала и целует ямщика.
Écoutez Radio Grand Ciel sur 107 à Châteaudun.
Thank you.